Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt. Les mecs que je veux ken.
Chers amis, bon, les temps sont un peu bizarres. J'ai pu enregistrer l'épisode que vous allez écouter mercredi dernier le 11 mars avec Raphaël Anthoven. Et j'enregistre cette intro le vendredi 13 mars. Vous écouterez ces mots lundi prochain, le 16, ou mardi 17, ou mercredi 18. Je sais pas comment la situation va évoluer par rapport au coronavirus. Moi, je continue de mon côté à jouer à la petite loge. C'est une petite salle de 25 places, je finis fin mars. Donc si vous êtes à Paris, venez. J'espère que vous aimerez cet épisode. C'est le plus long à ce jour. C'est le premier avec un philosophe. Ce n'était pas la SACD, mais chez Raphaël Anthoven, et j'étais sans Areski, qui m'aide pour toute la technique, en plus de m'aider au montage et de m'accompagner dans tous mes choix jusqu'à celui de mes culottes. Mais bref, la fenêtre était ouverte, j'ai mal placé l'enregistreur, on a finalement utilisé le dictaphone de mon iPhone, et je ne devrais pas vous dire tout ça, car j'espère que vous n'y verrez que du feu, et que vous tolérerez mes... Car oui, j'ai beaucoup gémi en écoutant Raphaël Anthoven qui s'exprime si bien. J'espère que vous aussi, vous allez gémir.
Pour mon podcast, je commence chaque épisode avec un poème pour mon invité. Donc, je vais lire le vôtre. Alors...
C'est vous qui l'écrivez.
Oui, c'est moi qui l'écris.
Enfin, il faut que je réagisse, c'est ça
Si vous voulez, après, si vous avez le droit de réagir, bien entendu. Et alors, il faut dire Anthoven ou Anthoven ?
Anthoven.
Anthoven, voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors, Raphaël Anthoven. Alors, parler de Raphaël, exercice très difficile dans le détail. En deux mots, intelligence et beauté, un peu court. Parlez donc de mon désir pour Raphaël. J'aime Raphaël Anthoven parce que je veux me voir en lui. Je veux lui ressembler et, comme lui, avoir les mots pour exprimer que la lutte féministe universaliste ne se fera pas sans les hommes, oui à la mixité, oui au clitoris dans les manuels scolaires. Et non, rien à voir, mais non, la France n'est pas une dictature. La France, vous en parlez si habilement, Raphaël, que je me permets de vous citer. Le patriotisme, c'est la bienveillance qu'il faut avoir envers son propre pays pour regarder en face les crimes dont il s'est rendu coupable et les erreurs qu'il commet. Et c'est très fin que vous associez après le nationalisme à un communautarisme étendu à la nation. Cela doit être assez beau d'être aimé par quelqu'un d'aussi brillant que Raphaël Anthoven. En interview, j'en ai regardé plein sur YouTube, vous prenez souvent, quasi tout le temps, des notes. Vous êtes malicieux, enfantin. Vous amenez de l'émotion au discours. Parfois, vous avez un regard de chat, vous souriez, vous êtes tendre, vous avez l'air heureux. Parfois, vous êtes cinglant et drôle, et toujours en vous exprimant comme un poète. Vous êtes libre, insolent, en colère. J'adore votre colère, elle me rassure. Est-ce que la philosophie ressemble à l'humour ? Une force pour réfuter la pensée unique et résister aux bons sentiments, prôner le droit à la contradiction. Est-ce que faire de l'humour, comme de la philosophie, c'est oser faire un peu mal ?
C'est ne pas avoir peur de faire mal au détour d'un texte dont ça n'est pas l'intention. Mmh. Il arrive que l'humour fasse mal. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est Guitry, qui était le filleul de Sarah Bernhardt, qui adorait Sarah Bernhardt, et qui assiste à la première de L'Aiglon, où chacun se demandait comment Sarah Bernhardt allait arriver, puisqu'elle était unijambiste. Et elle devait jouer à 57 ans un jeune homme de 17, et donc chacun se demandait comment elle allait entrer en scène. Et Guitry, qui était vraiment le premier fan de Sarah Bernhardt, est assis à côté d'un journaliste fielleux qui, entendant les trois coups du théâtre, dit « Ah, la voilà !» Et Guitry n'a pas résisté au bonheur de retranscrire ce bon mot du journaliste, alors que ça concernait la personne, une des personnes qu'il aimait le plus au monde. Mmh. Et je trouve que ça en dit long sur l'humour, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas délibérément cruel dans l'humour, mais qui est si sacré, en somme, que même la cruauté, parfois, peut être digeste. Mmh. Voilà, la cruauté n'est pas le but de l'humour, mais ça peut être son dommage collatéral.
Ouais, c'est vrai que pour faire une bonne blague, on peut pratiquement sacrifier... Enfin, il faut décider de ce qu'on sacrifie du rapport avec une personne ou pas dont on veut rire.
Souvent, bon mot, quand il est pertinent, a l'inconvénient de blesser celui dont il parle, et en particulier quand il est drôle. Donc c'est inévitable. Cela dit, l'humour, c'est pas l'ironie, de ce point de vue, parce que l'ironie, il y a vraiment une idée derrière la tête. Si je suis ironique quand vous dites quelque chose, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites et que j'essaie de le neutraliser ou de le dédramatiser par l'ironie dont je fais preuve. L'ironie a toujours une idée derrière la tête. Quand Socrate fait de l'ironie, il veut conduire celui dont il fait apparemment l'éloge vers la conscience de sa propre ignorance. Donc l'ironie est orientée vers une intention, vers un but, vers quelque chose, un but en général démystificateur. L'humour, c'est différent. L'humour n'a pas de but. On n'a pas de but et l'humour s'attaque indifféremment aux objets les plus sacrés. Il y a un texte comme ça extraordinaire de Clément Rosset à la fin de La Logique du Pire où il parle du Titanic. Et il se dit, est-ce qu'on peut faire de l'humour avec le Titanic? C'est une horreur, je veux dire, c'est une horreur, des milliers de morts, puis au drame humain s'ajoute évidemment un drame social puisque... Chacun connaît l'histoire des gens de troisième classe qu'on a enfermés pour qu'ils coulent mieux.
Ah, je ne savais pas ça.
Mais oui, bien sûr, on a fermé les portes parce qu'il n'y avait pas assez de cadeaux. Donc c'est une tragédie. Et Rosset prend cette tragédie et dit oui, mais maintenant si on met bout à bout le fait que le Titanic était réputé insubmersible au point que le révérend Carter organisait des prières pendant la traversée de l'Atlantique à l'intention des pauvres voyageurs qui n'avaient pas la chance de traverser l'Atlantique sur le Titanic. Quand on pense que le capitaine, M. Smith, a ordonné d'aller plein gaz dans une mer infestée d'icebergs avant d'aller lui-même prendre un repos bien mérité. Quand on pense que la vigie qui devait voir l'iceberg n'avait pas de jumelle et donc a récupéré la jumelle, après avoir vu l'iceberg, et surtout a prévenu le bateau de la présence de l'iceberg après le choc, ce qui est un effet comique inusable. Et quand on ajoute à tout ça, évidemment, que l'orchestre a joué plus près de toi, mon Dieu, au moment où ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux, on s'aperçoit que cette catastrophe épouvantable, même elle, peut faire l'objet de l'humour. Même elle, et qu'en cela, l'humour est tout à fait destructeur. Destructeur et indifférent à l'objet dont il traite.
Et en même temps, rire de ce que vous racontez sur le Titanic, c'est pas rire des morts, c'est rire plutôt de la bêtise des hommes et un peu de leur vanité.
Non, ça n'est pas rire des morts, c'est voilà. C'est rire de ce qui est drôle. Malheureusement, dans cette catastrophe, c'est-à-dire l'humiliation du sentiment, du sentiment trop humain, qu'on va, à coup de technique, régler la totalité des problèmes de ce monde et se garantir à jamais du moindre danger. L'humanité, en 1912, était au bord d'apprendre que tout son optimisme était caduque, que le sentiment d'un progrès moral consécutif à un progrès technique allait disparaître. On est à l'aube d'une immense désillusion à ce moment-là, et le Titanic donne le la de cette désillusion et d'une technique qui échoue à régler les problèmes des hommes et qui en pose d'autres.
Mmh. Ah oui, c'est beau. Mais par rapport à la philosophie, quand vous faites des chroniques sur Europe 1 et ensuite ça donne votre dernier livre, Nouvelle Morale, vous prenez aussi... Vous prenez un risque à chaque fois que vous adressez un sujet? Comment vous vous libérez de la peur de déplaire?
Je n'ai jamais eu la peur de déplaire. Je n'ai jamais souffert de ça. Je n'ai jamais été handicapé par ça. Dans la mesure où déplaire n'est pas un but. Déplaire n'est pas un but, mais déplaire peut être l'effet d'une démarche aussi honnête que possible. Si vous essayez d'être honnête, vous êtes fatalement conduit à vous faire à vous-même des objections. Ou bien à faire à l'opinion majoritaire un maximum d'objections. Et donc, vous vous exposez inévitablement au procès d'intention qui consiste à vous attribuer les intentions de vos constats. Pour le dire simplement, imaginons que je fasse une chronique sur l'égalité salariale homme-femme, en expliquant que rien n'est plus souhaitable, que le fait même que l'égalité salariale homme-femme ne soit pas encore entrée dans les lois, ne soit pas encore obligatoire, est une évidence, est un archaïsme sidérant dans une démocratie, une vieille démocratie comme la nôtre. Donc il y a là quelque chose d'aberrant. Mais si tout en disant ça, je fais valoir que si on impose l'égalité salariale homme-femme en 24 heures ou en une semaine ou à coup de décret, les entreprises n'ayant pas les moyens de financer ça, eh bien, on se retrouverait aussitôt dans une situation très compliquée et avec des millions de chômeurs supplémentaires. Si je fais valoir ça, on m'accusera non pas de tirer les conséquences de quelque chose que je souhaite, mais de présenter comme impossible quelque chose qu'en réalité je ne souhaite pas. Et on fera de mon si je ne suis pas d'accord avec conformation du réel au désir que d'autres en ont, les gens qui ont ce désir là verront dans ma parole une parole hostile.
Et on revient au Titanic parce qu'en fait c'est encore plus dur peut-être de parler d'égalité salariale et de féminisme quand c'est tellement à vif dans les cœurs et les esprits que de faire une blague sur le Titanic où ça avait lieu il y a un siècle.
Oui, c'est vrai, mais sauf qu'il faut le faire quand même. Dans Zadig, Voltaire dit, ce fameux chapitre 6, il dit « Il vaut mieux hasarder de libérer un coupable que d'emprisonner un innocent. Ce qui est le credo en vérité de toute démocratie. Voltaire écrivait avant la démocratie, mais clairement c'est le credo de toute démocratie. Une démocratie se caractérise comme le régime où la loi préfère, dans le doute, libérer un coupable que, dans le doute, emprisonner un innocent. Les Khmers rouges se donnaient le précepte exactement inverse. Dans le doute, il vaut mieux emprisonner un innocent. On ne sait jamais. Exactement, il prenait frontalement le contre-pied du point de vue de Voltaire dans Zadig. C'est fait partie des principes du Kampuchea démocratique. Emprisonnons les innocents au cas où, ou en tout cas les coupables possibles. Il n'y a plus de présomption d'innocence, on vit sous le régime de la présomption de culpabilité. Donc évidemment, en matière de féminisme, quand vous faites valoir ça, quand vous dites que la présomption d'innocence est mise à mal par un slogan qui range indifféremment dans le même sac à pu Frédéric Aziza et Harvey Weinstein, Tariq Ramadan et Jean-Claude Duss, quand le discours est si généralisateur et si vengeur qu'il invisibilise les véritables prédateurs en les mettant sur le même plan que des braves types qui n'ont pas fait grand-chose de mal, en tout cas qui n'ont rien fait de criminel, quand on fait cela, on remplace ce qui est par ce qu'on a envie d'y voir, et surtout, on joue avec la présomption d'innocence. Il faut rappeler la présomption d'innocence en toutes circonstances. Au début de Balance ton porc, rappeler le principe de présomption d'innocence était extrêmement risqué. C'était impossible de le faire sans passer pour un défenseur du patriarcat. Mais on n'est pas un défenseur du patriarcat, on est un défenseur de la liberté. La liberté, dans ces cas-là, c'est la liberté pour quiconque de se défendre. C'était tout, d'où l'enjeu de l'histoire Adèle Haenel. Adèle Haenel emprisonnait Christophe Ruggia dans le discours qui est le sien sans lui laisser la possibilité de se défendre en racontant son histoire et en refusant de porter plainte. À la seconde où elle porte plainte, elle le met l'autre en situation de se défendre, et à partir de là, on est dans un débat dont la conclusion est recevable et permettrait peut-être de changer un peu les mentalités.
Oui, alors Adèle Haenel, elle s'est justifiée de ne pas être allée d'abord à la justice pour justement faire action et dénoncer le système judiciaire français. C'est ce que disent certaines féministes dans un article qui est sorti là dans Le Monde par rapport aux avocates qui voulaient justement redéfendre la présomption d'innocence. Et moi, je suis très partagée sur le sujet, mais avant tout très enthousiasmée parce que j'ai l'impression d'apprendre plein de choses en ce moment et l'impression d'affirmer mon féminisme. Et que même si
j'ai rarement eu l'occasion de le faire autant,
vous aussi.
Je me suis rarement sentie aussi féministe depuis qu'on me fait le procès de défendre le patriarcat. C'est vrai, j'avoue. J'avais pas en moi d'ailleurs avant cette urgence là, ça faisait partie des combats. J'étais plus mobilisée par la question du racisme ou de l'antisémitisme que par la question du féminisme, dont j'avais l'illusion pendant longtemps qu'elle était plus ou moins réglée. Illusion terrible, illusion coupable. Et je me suis découvert féministe à la seconde où le féminisme lui-même s'est présenté comme partiellement en tout cas, ou pour une partie de lui-même, comme une doctrine absolument communautaire, différentialiste et à mon avis anti-républicaine. Donc c'est à ce moment-là que l'exigence d'un féminisme républicain ou universaliste est apparue en moi. J'avais pas ça avant. J'y pensais pas. J'y pensais pas, mais sur le cas d'Adèle Haenel, c'est très important. Quand elle dit je ne veux pas porter plainte parce que l'institution judiciaire ne nous est pas favorable, il y a deux inconvénients à ça. Le premier, c'est qu'évidemment, elle dit quelque chose en mettant les gens dont elle parle dans la situation impossible d'avoir à s'en défendre, puisque comment si je vous dis vous faites n'importe quoi, vous allez me dire non, qu'est-ce que c'est que le contraire de n'importe quoi? Je ne peux pas vous défendre. Donc je vous enferme dans une idée, et surtout vous ne donnez pas, vous privez l'institution judiciaire de la possibilité de montrer qu'éventuellement elle marche en la privant de cet exercice. Vous faites ça, et deuxièmement, surtout, et c'est ça qui est problématique, vous ne faites rien avancer. Vous ne faites rien avancer puisque vous ne faites que jeter l'opprobre sur un homme qui le mérite peut-être, mais dans un état de droit, c'est à la justice de dire s'il le mérite. Donc la seule chose que vous ayez fait dans ces cas-là, c'est que vous avez pour vous-même, ce qui est très important, libéré une parole qui devait être dite, mais qui, quand elle n'est pas suivie d'un processus juridique, est une parole totalitaire. Qui prive l'autre de la possibilité de se défendre. C'est ça, une parole totalitaire. C'est quand vous attaquez quelqu'un tout en l'immobilisant.
Eh ben, c'est le point de vue du philosophe, c'est passionnant, mais c'est vrai qu'en tout cas, elle a levé le voile sur quelque chose qui ne paraissait pas si grave, en disant « c'est grave quand même ». Après, apparemment, la journaliste Mediapart, qui a fait l'enquête sur plusieurs mois, a souvent contacté Christophe Ruggia pour s'exprimer, pour parler. Et d'ailleurs, il a fini lui aussi par justement avoir, ou par son avocat, une réponse. Bon. Mais c'est en tout cas... alors moi, je suis un peu disputée avec mon père en ce moment, qui lui est un anti-Adèle Haenel, mais,
ah oui.
Ouais, mais de façon ce tellement que agressive
pas,
que...
Ce que je ne suis pas. Ce que je ne suis pas. D'abord, il faut une reine à ce combat. Il faut une reine à ce combat, et d'autres auraient pu occuper cette place. Et c'est finalement Adèle Haenel qui, d'une certaine manière, et pardon de le dire comme ça, a remporté le morceau. Et sera la Jeanne d'Arc ou la figure de proue de ce combat. Ça aurait pu être Marina Foy, ça aurait pu être d'autres personnes. Non, ce sera vraisemblablement Adèle Haenel. C'est elle qui s'est imposée par la qualité de son témoignage, par la virulence de ses réactions et par le contexte aussi à l'intérieur duquel les choses se sont passées. Donc clairement, c'est elle, aujourd'hui, il y avait là un kairos, une occasion, et elle l'a saisi, et elle a incarné un combat, et c'est en cela, je crois, qu'on peut difficilement être hostile à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle dit. Et vous avez raison de parler d'une... C'est pas simplement une libération de la parole, c'est le rappel que certaines choses qui semblent anodines sont en réalité très graves.
Ça,
c'est très important de le dire. Quand je défends la présomption d'innocence, justement, je ne défends pas le patriarcat. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de patriarcat, ou qu'il n'y a pas de discours misogyne consistant à dire que les plaintes des femmes ne sont que des complaintes. Je ne suis pas en train de dire que cette parole-là, enfermante, séculaire, millénaire, n'existe pas. Bien sûr qu'elle existe, et il faut la malmener, et c'est d'une certaine manière sur le terrain de la publicité et des réseaux sociaux que cette parole-là peut être mise à mal. Mais il ne faudrait pas non plus donner raison aux gens qui pensent comme ça, en basculant dans un excès où c'est le droit qui ferait les frais de la lutte. MeToo est une victoire qui court le risque d'être vaincue par sa victoire. Qui s'expose par la victoire qui est la sienne, si le mouvement, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans une certaine mesure, se dévoie ou est dévoyé en une critique de toute forme de comment dire, en la critique du genre masculin, ou bien dans en présomption de culpabilité, bien dans le refus d'entendre un témoignage dissonant comme celui de Samantha Gamer ou bien comme celui du fils aîné de Woody Allen.
Ronan Farrow.
Voilà. Le fils aîné.
Ah, donc pas lui.
Pas celui qui l'accable, celui qui le défend.
Ah oui, d'accord, celui oui. Défend, alors oui, j'ai plus son nom.
Il y a l'histoire dans laquelle il dit Dylan, je crois. Non, Dylan, c'est
Dylan,
la fille.
Dylan, c'est la fille, ouais.
Non, celui qui le défend et dans lequel il explique que...
Oui, c'est leur mère.
Son père n'étant rien, n'étant rien pédophile et que c'est une construction de sa mère. Ce que je veux dire, c'est que le mouvement peut être vaincu par sa propre victoire si, avide... de rétablir la justice là où il n'y en avait pas ou là où il y avait une injustice, il le fait aux dépens du droit qu'ont les individus de se défendre, d'être libres ou bien de faire valoir leur propre version des faits. Et en somme, quand on critique MeToo, on défend MeToo.
Bien sûr.
C'est un mouvement qui a besoin d'être critiqué. Le problème, c'est qu'il ne le supporte pas.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah, c'est encore bébé, quoi. C'est-à-dire que c'est aux prémices, mais moi, je trouve ça assez excitant, justement, l'intérêt que j'avais perdu en mon sentiment socialiste ou à la sensation d'être de gauche. J'ai l'impression que n'était pas très intéressant aujourd'hui dans le débat. Je trouve passionnant, par contre, d'établir et de défendre et de comprendre ma façon d'être féministe et hétérosexuelle et d'aimer les hommes et de vouloir les inclure à la discussion et d'entendre... voilà, leur parole sincère et pas et je trouve votre parole sincère et finalement c'est ce serait paternaliste et complaisant d'être là oui les filles vous avez raison et de pas en fait apporter une
et
nouvelle
de s'interdire,
parole
et de s'interdire parce qu'on est un homme de tenir un discours
bien sûr,
critique
bien sûr ouais.
Vous savez c'est comme ces blancs à qui on laisse le choix de contester leurs propres privilèges ou bien d'être les zélotes et les défenseurs d'un patriarcat blanc raciste et misogyne. Là c'est la même chose. Encore une fois, critiquer ce mouvement, ça n'est pas attaquer ce mouvement. Nuire à ce mouvement, c'est vouloir le préserver de toute critique ou l'immuniser en faisant valoir que sa cause est tellement juste que ses excès doivent être validés. Non, aucune cause, si juste soit-elle, ne doit valider ses propres excès, non pas pour des raisons morales, mais pour des raisons d'efficacité. Pour des raisons d'efficacité, le mouvement sera plus efficace s'il passe un compromis avec le droit, à mon avis. Si c'est la loi qui le fait évoluer, en même temps que les consciences.
Mais d'où l'importance du rire. Et après, ce qui est difficile, c'est les émotions. Et ce qui est difficile, c'est un peu d'abattre les idoles. Pour Woody Allen, pour moi, c'est extrêmement douloureux. Parce que c'est un de mes héros, quoi. Peut-être comme vous, comme Proust ou comme... pour moi, Woody Allen, c'était fondamental dans ma construction artistique. Je me suis beaucoup identifiée à lui. Là, ça fait quelques derniers films que j'arrive plus à aller voir. Et pourtant, j'ai lu tous les... Et ça s'est concrétisé avec la lecture du livre de Ronan Farrow. Parce que avant, je continuais face à des amis féministes plus assez extrêmes. À le défendre, en tout cas à défendre la présomption d'innocence. Voilà. Mais le problème, c'est que, m'enflammant un peu, j'étais là, face à elle, je me retrouvais à traiter Mia Farrow d'hystérique, et donc finalement à...
Personnel, moi je suis convaincu de l'innocence de Woody Allen, mais je ne l'étais pas.
D'accord.
C'est la lettre du fils aîné qui m'en a convaincu. J'en suis convaincu, mais ça n'est qu'à titre personnel. La seule chose que je veux défendre, c'est, malgré la gravité des accusations qui pèsent sur lui, le droit pour cet homme de faire valoir sa propre version des faits. C'est tout ce que je prétends défendre. Or, dans le cas de Woody Allen, il me semble que défendre ça, c'est exposer les accusateurs de Woody Allen à un grand ridicule. Woody Allen... couché avec sa fille adoptive, c'était pas sa fille adoptive, elle n'était pas mineure quand il a couché avec elle, on n'est pas ici en présence d'un c'est pas Madznev.
Non, bien sûr, bien sûr, ah, évidemment. Ah, oui.
Sauf que dans le confucianisme général, oui, oui, il y a cette différence entre les deux. Ouais. Or, ça n'est pas Madznev. Ouais. On est exactement en présence, je veux dire, il y a quand même d'un côté un homme qui a fait 1000 livres, qui a fait plein de livres sur la façon dont il aimait une jeune fille de 13 ans, enfin, qui a fait plusieurs textes là-dessus, qu'il a écrit, qu'il a décrit, qui s'en est vanté, qui a fait commerce de ça. On a de l'autre côté quelqu'un qui n'a jamais rien fait de tout ça, et qui surtout n'a jamais rien fait de ce dont, à mon avis, on l'accuse, et qui en tout cas mérite d'avoir le droit de se défendre. Ce qui est grave avec Woody Allen, c'est la décision prise de ne pas publier.
Par Hachette,
oui, c'est ça. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave, parce que, en somme, la présomption d'innocence en termes de droit, bon, elle est préservé. S'il y a un procès, il n'y aura pas de procès Woody Allen. Mais s'il y avait un procès Woody Allen, il pourrait se défendre, présumer innocent, mais à mon avis, son innocence serait avérée. Mais je n'imagine pas qu'il y en ait. Je n'imagine pas qu'il y en ait un. En revanche, quand une maison d'édition décide, en s'appuyant sur la puissance publique, de ne pas publier les mémoires de Woody Allen pour éviter les emmerdes, en fait, on comprend que le problème de la censure en démocratie, c'est pas une censure verticale, c'est pas l'État qui l'interdit. Le problème de la censure en démocratie, c'est le zèle des lâches. C'est les gens qui, parce qu'ils ne veulent pas d'emmerdes, devancent, ou comment dire, avèrent le verdict de la foule, en considérant que, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, de toute façon, on ne va pas prendre le risque de publier celui dont ils parlent. C'est là, la défaite. La défaite, elle est là. Quand les institutions ne résistent pas à la tentation du lynchage. Là, à mon avis, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une défaite, mais d'une défaite collective. Parce que si Woody Allen avait fait paraître ses mémoires, il y aurait pu y avoir d'autres textes, on aurait pu discuter de tout ça. L'absence de ses mémoires permet commodément, justement, d'enfermer l'individu dans l'idée qu'on veut avoir de lui.
Il aurait fallu que son fils, Ronan Farrow, malgré tout le mal qu'il lui souhaite peut-être, mais continue de se battre pour qu'en fait, il n'y ait pas de censure sur les écrits de son père. Et moi, je me souviens quand Scarlett Johansson avait dit « Je crois Woody Allen », j'avais partagé, enfin j'étais... Puis en fait, c'est le fait de lire le livre de Ronan Farrow et comment il a réussi à faire tomber Weinstein.
Il faut vraiment
Weinstein.
Que vous lisiez le témoignage de son fils aîné et l'article dans Slate qui est paru récemment de l'excellent Laurent Sagalovitch, qui avait écrit ce super livre, ça s'appelle « Loin de quoi ». Et dans lequel il dit qu'il n'y a pas d'affaire Woody Allen. De fait... Techniquement, quand on regarde, il n'y a pas d'affaire Woody Allen, à ma connaissance, pas de dépôt de plainte.
Et pour revenir alors sur les hommes et les femmes, vous sentez féministe, est-ce que vous tombez facilement amoureux? Je me permets, vous avez dit à Bordeaux, à la librairie Mola, qu'il n'y avait pas de questions indiscrètes, seulement les réponses. Donc...
C'est pas moi qui le dis, c'est Oscar Wilde.
Oscar Wilde, c'est génial. Donc, vous libre à vous de choisir si vous souhaitez ou pas répondre, comment vous
Joker
voulez répondre,
ou
Joker ou pas. Mais donc passer des questions de questions de la femme et du droit des femmes à question de l'amour. Voilà, est-ce que vous tombez facilement amoureux?
Ça dépend de ce qu'on appelle tomber amoureux. Si c'est la grande passion qui vous prend le cœur et qui vous empêche de respirer. Non, heureusement, non. Heureusement, non. Parce qu'on pourrait pas vivre sur un régime quotidien comme celui-là. Non. Si, en revanche, il s'agit d'une amitié si dense, aussi confiante qu'elle s'affine avec le temps et qu'il arrive même que des amis, à mesure qu'ils s'approchent l'un de l'autre, deviennent de plus en plus respectueux l'un de l'autre. S'il s'agit de ça, s'il s'agit de cette forme d'amour qu'on peut construire ou qui dépend un peu de la bonne volonté de chacun, qui ne relève pas de la passion, mais qui relève aussi d'une construction ou d'une confiance maintes fois avérée, alors oui. Je pense qu'on peut parler d'amour là. Je pense qu'on peut parler d'amour dans cette, dans les gémellités intellectuelles qu'on se trouve parfois et dans les grandes confiances qui les accompagnent. Bref, comme une forme supérieure ou raffinée de l'amitié. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe une forme d'amour, à mon avis, qui dépend aussi de soi. qui ne relève pas simplement du coup de foudre, mais qui est aussi l'affaire d'une construction patiente. Et je ne parle pas ici de l'amour conjugal, ce qui est encore un autre domaine, mais d'une amitié qui se précise.
Ouais, c'est beau. Hein. Mais après, bon, il faut pas avoir envie de coucher avec la personne parce que ça peut abîmer la belle amitié intellectuelle.
Oui, ça peut.
Ouais, ça peut. Comme le sexe induit quand même pas un rapport de pouvoir, mais enfin, moi je m'entends jamais aussi bien qu'avec les mecs avec qui j'ai pas couché. Et est-ce que vous avez donc besoin, disons en amour, d'être admiré ou plutôt d'admirer ou aucun ou plutôt les
non,
deux?
Non, d'admirer.
Ah, d'admirer.
D'admirer. J'adore admirer. J'adore admirer et c'est presque chez moi l'expression du désir. J'adore admirer. J'aime être admiratif. C'est assez, d'une certaine manière, c'est assez facile d'attirer mon attention. Il suffit d'être remarquable.
Ben c'est peut-être là où se niche le féministe en vous.
Peut-être.
Parce que tous les hommes n'ont pas besoin d'admirer. Oui.
Oui, mais enfin, j'admire indifféremment. C'est pas le sexe qui me rend les gens admirables. C'est plutôt ce qu'ils font. C'est plutôt ce qu'ils font. Mais c'est vrai que quand vous êtes confronté à des individus qui ont fait de leur vie quelque chose d'absolument inutile, mais de tout à fait magnifique, des grands alpinistes, des grands marins, choses comme ça, c'est-à-dire des gens qui font des choses vraiment, vraiment inutiles et vraiment fondamentales en même temps, et qui vont risquer leur vie au milieu d'une nature qui s'en fout alors qu'ils pourraient mourir dans leur lit. C'est assez difficile pour moi de ne pas les admirer.
Ouais.
Et donc de ne pas les aimer. Il y a là quelque chose de l'ordre d'une témérité supérieure. Oui, est-ce qu'on peut parler de désir? Je ne sais pas. Mais d'admiration, oui, incontestablement.
Et comment vous vivez le désir des femmes sur vous? Parce que quand même quand on voit sur YouTube les femmes qui vous interviewent, qui viennent vous écouter,
C'est rarement à moi-même qu'on s'adresse dans ces cas-là, c'est plutôt à l'image qu'on en a, ou à l'idée qu'on s'en fait. C'est un malentendu d'ailleurs comparable à la haine. Quand on vous déteste, quand les gens vous crachent sur la gueule, etc., c'est à votre image qu'ils s'en prennent. Ils sont comme des chiens qui essaient de déchirer un bout de papier, qu'ils prennent pour un ennemi. Donc je suis spectateur de ça en général, quand je vois les gens s'acharner sur l'idée qu'ils se font de moi, ou m'attribuer des pensées pour ensuite les dénoncer. Dans l'autre sens, quand je suis non pas la victime ou la cible, mais le bénéficiaire de ces a priori, d'une certaine manière, le malentendu est le même. Que la conclusion soit plus sympa ne change rien au fait que c'est le même malentendu, ça reste pas moi. Ça reste pas moi. Ce qui en soi n'a aucune importance. C'est juste, il est juste extrêmement intéressant d'observer les gens qui vous observent. Regarder les gens qui vous regardent, ou plutôt de regarder la façon... Ça n'est pas regarder son propre reflet dans les yeux des autres, ça n'a aucun intérêt. Chercher son pareil dans le vœu des regards, comme dirait Charles. Non, c'est plutôt regarder la façon dont on vous regarde, c'est-à-dire regarder non pas ce qu'on voit de vous, mais ce qu'on veut voir en vous. Et la position, dans ces cas-là, de la personne publique est très intéressante parce qu'elle permet de se cacher en pleine lumière. Les gens qui vous regardent n'ont aucune idée que vous les regardez en retour. Ils ne pensent pas ça. Ils pensent que comme si l'attention à l'autre était un luxe, je ne sais pas, dans une sorte de hiérarchie... De hiérarchie imaginaire, on se dit que celui qu'on observe plus est celui qui regarde moins. Or, c'est pas vrai. L'avantage d'être observé, c'est que vous êtes caché en pleine lumière et que les gens qui vous parlent n'ont aucune idée que vous êtes en train de les disséquer.
Ah oui, ça c'est un bon moyen de se protéger, de pas perdre ça de vue.
C'est de rester le spectateur de la scène dont vous êtes également le protagoniste.
Et est-ce que vous êtes jaloux parfois?
Très rarement.
Très rarement.
Très rarement. Le moins possible. assez tôt, on a tous été jeunes, c'est-à-dire qu'on a tous voulu penser... L'une des définitions de la jeunesse, peut-être, c'est le sentiment que quand on donne un baiser à quelqu'un, immédiatement autour de cette personne s'installe une sorte de régime avec des miradors, des barrières, des gardes, des mitraillettes, des choses, du droit. Immédiatement, la personne en question subit une restriction considérable de sa liberté de mouvement, ne peut plus regarder, toucher, penser, limite. Enfin, bref. Donc on a tous, à mon avis, vécu cet âge-là, l'âge où l'on croit qu'on est propriétaire de celle qu'on prend. Qui vous prend, ou qu'on est possédé par celle qui vous prend, ou inversement. Bref, on a tous connu ça, et avec la jalousie qui va avec. Et puis un jour, on s'aperçoit, en tout cas c'était mon cas, que la jalousie n'a pas du tout besoin de la culpabilité. Le jour où vous découvrez que vous n'avez pas besoin que l'autre vous ait trompé pour le croire, pour en être convaincu, bah, Othello a pas besoin que Desdemone soit coupable. Ni Swann qu'Odette l'ait trompé, même si Odette l'a trompé. Mais c'est pas la question. Il s'en fout d'une certaine manière qu'elle soit passée à l'acte ou pas. D'ailleurs, il veut pas regarder dans les lettres pour savoir si c'est le cas. Je veux dire, il ose pas. Il a pas envie de savoir. Il veut souffrir. La jalousie est à elle-même sa propre fin. Donc, la jalousie n'ayant pas besoin de la culpabilité, étant une maladie autonome, étant un vice autonome, j'ai décidé, que j'en souffrirais pas. Jusqu'ici, ça marche.
Décider de ne pas en souffrir.
J'ai pas l'impression qu'on me prend quelque chose, si vous voulez,
et les femmes,
c'est...
Ouais.
Oui, quand c'est quelqu'un d'autre qu'on me prend.
Et les femmes ne vous réclament pas d'être jaloux ?
La demande de jalousie, il arrive parfois, mais ce n'est pas à moi, mais à toute personne. On confond aisément, d'ailleurs c'est comme ça que la jalousie, c'est le miel de la jalousie, c'est comme ça qu'on fait passer l'absinthe de la jalousie, on confond aisément la jalousie ou l'expression de la jalousie avec un sentiment amoureux.
Ouais.
Ah, s'il souffre, c'est qu'il me désire. C'est pour ça qu'on veut faire souffrir les gens. Je ne suis pas certain que ce soit l'autre qu'on désire quand l'autre nous fait souffrir. Ce que je veux dire, c'est que le sentiment que l'autre nous trahit, nous manque, nous abandonne quand il tourne son regard ailleurs, cette étrange dépossession alors qu'on est propriétaire de rien, n'est pas chez celui qui l'éprouve l'expression du désir, c'est plutôt l'expression du désarroi. Donc je m'étonne qu'on prenne la jalousie pour l'expression d'un désir, alors que la possession dont elle témoigne en général pourrait à la limite faire l'économie du désir. Il y a combien de jaloux ne couchent pas avec leur femme?
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Combien de jaloux ne font d'une certaine manière pas ce qu'il faut, dans la mesure de leurs moyens, pour empêcher le malheur d'être cocu, dans un sens comme dans l'autre. La jalousie est un affect qui n'a besoin ni de la culpabilité, ni du désir, je crois. C'est juste un cancer.
Et est-ce que vous êtes sensible à la beauté des femmes, ou bof, pas trop? De 1 à 10, ça vous touche? Vous trouvez ça... intéressant, inintéressant?
Non, mais j'ai des critères de beauté qui ne sont pas les critères de tous.
C'est intéressant.
J'ai tendance à penser qu'on peut adorer tout ce qui vit et qu'aucune femme n'est laide. Encore moins les moches, si j'ose dire. L'examen de la beauté de quelqu'un, la beauté physique est une information. L'examen de la beauté de quelqu'un ou le constat de la beauté de quelqu'un se fait au terme d'un examen plus poussé. Il arrive que des gens très beaux vous semblent très laids, comme il peut arriver que des gens ingrats vous paraissent soudain nimbés ou nantis d'une sorte d'aura qui les rend magnifiques. C'est banal de dire ça. C'est moins banal de le vivre. C'est assez facile de le dire parce qu'on se sent vertueux à peu de frais quand on dit ça. Quand on a la chance de l'éprouver, c'est-à-dire quand on a cette liberté supérieure que donne le sentiment que la beauté n'est pas exactement ce qui saute aux yeux, mais aussi le résultat d'une rencontre entre deux personnes, et qu'elle obéit moins à des critères qu'à un principe de convenance entre deux corps ou entre deux amoureux. Et qu'en somme, ce qui fait la beauté, c'est plutôt la rencontre de deux individus que la beauté d'une personne qui suscite chez l'autre le désir de la rencontrer. Quand on raisonne comme ça, on élargit considérablement, je trouve, le champ de la beauté et le champ du désir. Et c'est plutôt comme ça que ça se passe.
Ben, c'est encore le féministe qui parle, alors. C'est vrai, ça. Est-ce que c'est pas un grand... Parce que c'est un grand sujet, finalement, toute la question de la beauté des femmes. Est-ce qu'il n'est pas là le poison? que les hommes soient touchés par la beauté des femmes, que les femmes soient touchées par leur propre beauté, et que la société mette tant ça en valeur plus que pour les hommes. Parce que finalement, ça fait une énergie folle dépensée à juste paraître, quoi, et puis être dans des régimes et des vêtements.
C'est pas seulement le juste paraître, enfin, vous avez raison, bien sûr, mais c'est aussi le fait que la beauté altière, enfin, c'est la grande leçon de Platon, quand on a le cœur tourné vers la véritable beauté, pas la beauté qui s'estompe. Vous, moi, allons vieillir, on l'est dit, nos organes vont s'affaisser et on finira par mourir. Donc pas cette beauté-là dont nous sommes éventuellement, tout individu peut être l'héritier temporaire, mais la vraie beauté. Quand Platon dit « partons vers la vraie beauté », il justifie au nom de cette quête que Socrate ne couche pas avec Alcibiade, ou qu'Alcibiade ne couche pas avec Socrate, c'est-à-dire qu'on s'abstienne du désir, on s'abstienne du sexe, au profit d'une beauté qui serait supérieure à tout cela. On a mieux à faire qu'à baiser, en fait, parce que... Une fois qu'on l'a fait. Une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est comme aimer la fumée. C'est comme aimer la fumée, c'est de la fumée qu'on aime. Aimer le corps de l'autre n'a pas plus de d'une certaine manière, n'est pas plus constructif que d'être amoureux de sa cigarette, dans la mesure où, dans les deux cas, c'est un fantôme qu'on désire. Puisque ce qu'on aime dans le corps de l'autre, ça n'est pas le corps de l'autre lui-même, c'est la beauté dont il est temporairement le dépositaire. Donc dans les grandes constructions métaphysiques autour de la beauté, il y a aussi l'idée, on retrouve ça même chez Kant, hein. L'idée que la beauté, en un sens, quand on parle vraiment de la beauté ou de la vraie beauté, est une expérience un peu désintéressée, presque sans chair. Ce qui est troublant, c'est la juxtaposition de la grande beauté et de la chair, justement, et des organes, et des odeurs, et de la saleté, et de tout ce qu'on peut faire, ou de l'obscénité, par exemple. Ce qui est touchant et très exactement dérangeant, c'est la juxtaposition d'une beauté qu'on a envie de penser absolue et d'un corps qui en est le dépositaire et qui, comme tous les corps, est composé d'organes qui font ce qu'ils peuvent. Et c'est ce décalage entre le rêve de pierre, je suis belle ou mortelle comme un rêve de pierre, et la réalité des entrailles, qui est à mon avis très intéressante et qui justifie par exemple cette espèce d'étrange volupté qui consiste à rappeler que les plus beaux corps sont eux-mêmes soumis aux contingences de la digestion, des désirs, etc. Il y a une forme de volupté à dire oui, mais elle chie quand même. Mais il y a une sorte de plaisir malsain. On a le sentiment, en disant ça, de déconstruire une idole, d'humilier une idole. Alors, c'est un sentiment démocratique. Parce qu'en démocratie, on ne sait pas quoi faire de la beauté. Dans un régime égalitaire, on ne sait pas quoi faire native. Donc, on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, on a plusieurs dispositifs pour digérer la beauté en démocratie. Miss France, par exemple, c'est super. Vous prenez la beauté, vous la mettez soi-disant au pinacle, et puis après, vous vous foutez de sa gueule pendant un an. C'est parfait. On a mis en place un dispositif qui permet d'humilier la beauté, tout en la célébrant. De rendre grâce à la beauté, parce que les gens aiment bien ça, tout en disant si elle est bête, c'est qu'elle est bête. Miss France est tout entière tournée, enfin la cérémonie est tout entière tournée autour de cette ambition-là, c'est-à-dire celle d'offrir à la France une potiche, une poupée, dont on célèbre la beauté, dont on salue les bons sentiments et dont on peut railler la sottise.
Bah oui.
Qu'est-ce qu'un régime égalitaire peut faire d'une injustice objective?
Oui, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on n'est pas tout aussi tendre avec les gens qui ne sont pas... aussi beau. Même, enfin, c'est très superficiel. Et après, en effet, comme vous dites, la beauté peut prendre plein de formes différentes. Mais en effet, c'est une injustice et ça se voit aussi particulièrement dans la nature avec les animaux. C'est la bonne blague du fait que ça nous dérange pas de manger la vache, mais on va pas manger notre joli petit chat, quoi.
Est-ce que c'est la beauté, ça?
Bah, y a une beauté et un charme quand même dans les yeux du chat et son joli poil et son.
Oui. Enfin, il y a des animaux beaux qu'on mange.
Ouais.
On mange de la baleine.
La baleine?
Ça se mange.
Mais c'est pas très beau, une baleine.
Wow, qu'est-ce qu'il vous faut? Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous prive de manger le chat, est-ce que ça n'est pas le fait que lui-même soit carnivore? Est-ce que vous connaissez un animal carnivore qu'on mange?
Ah oui.
J'en connais pas beaucoup, moi.
Ah, c'est ça.
Je vois pas,
c'est
intéressant. On mange pas de tigres, pas parce que ce sont des félins.
Ouais.
Parce qu'ils sont... C'est assez rare. Alors, vous allez me dire, oui, les poules mangent des vers de terre, oui, d'accord. Mais, en somme, un animal exclusivement carnivore, qu'on mangerait nous-mêmes... À part peut-être, si, le requin.
Ouais.
Non. Mais c'est... je me demande si le dans le grand banquet de la nature, j'en sais rien, hein. Mais je me demande s'il n'y a pas dans les préventions qu'on a envers certains animaux, s'il n'entre pas le fait que ces animaux-là sont carnivores comme nous.
Ça paraît, je suis pas du tout religieuse, mais un péché de manger du requin par je suis pas du tout animaliste ni rien, mais le requin a quand même un sacré caractère. Je trouve ça du rail de le mettre dans son assiette.
C'est un peu anthropomorphique. C'est un peu anthropomorphique. Mais pourquoi pas, oui.
Ouais. Et la baleine, vous trouvez ça beau? Alors pour moi, à ce moment-là, la baleine, c'est beau comme une espèce d'immense montagne. C'est beau comme la nature, mais un chat ou un félin, c'est pour moi plus beau de la beauté qu'on peut attribuer à une femme. C'est-à-dire quelque chose de, de fin, de...
Il y a dans la beauté de la baleine un gigantisme tel qu'il relève davantage du sublime que du beau.
Voilà.
On est d'accord, vous avez raison. après, moi je suis un amoureux éperdu de Moby Dick, qui est peut-être mon livre préféré, et le livre que je lis le plus souvent. Et vous savez, dans Moby Dick, il y a tous ces passages sur la blancheur de la baleine, et surtout le mythe qui s'empare de Moby Dick, et notamment ces histoires merveilleuses de ces marins qui, au milieu de l'océan, voient une île. Et donc, note sur les cartes l'île et qui, de retour sur la côte, font valoir auprès des cartographes de l'État qu'il y a là une île, etc. C'était pas une île, c'était le dos d'une baleine. Et pendant des siècles, dit Melville, les marins évitent cet endroit pour échapper au haut fond qui accompagne la présence de l'île, alors qu'il n'y a rien, il y a juste une baleine. Je trouve ça très beau. C'est ça que je trouve beau. J'aime l'idée que, par son gigantisme, la baleine puisse donner le sentiment d'une terre ferme. Mais on est effectivement dans une beauté qui est une beauté métaphysique, qui engage d'autres choses, et puis qui fait dans Moby Dick de la baleine le symbole de toutes les réponses qu'on n'a pas. Donc c'est encore autre chose. Non, vous avez raison. Il y a dans la beauté d'un félin ou la beauté féline d'une femme. On est à la lisière de l'évidence de la beauté.
C'est ça.
Il n'y a pas de doute. On sait que c'est beau. Pas de doute. On regarderait comme un clown ou comme un type bizarre, celui qui dirait, non, elle est moche, non, un tigre, c'est laid, je ne sais pas, voilà. Donc, il y a une évidence, mais c'est une évidence qui, dans le cas de la métaphore féline, est matinée par du désir. C'est pas parce qu'on est certain d'être en présence de la beauté que ça, c'est une beauté qu'on ne désire pas. C'est pas comme un coucher de soleil, si vous voulez. C'est une beauté qui peut faire l'objet d'un désir, c'est une beauté qui peut aussi inspirer la curiosité. Kant a dit, l'expérience de la beauté est une expérience désintéressée, on peut lui objecter les fesses de Brigitte Bardot. Est-ce que quand on regarde les fesses de Brigitte Bardot, on fait une expérience totalement désintéressée? On est en présence d'une beauté pure. Clairement. D'une incontestable beauté. D'une beauté telle...
Qu'elle peut être bête, telle elle.
C'est même pas le problème d'ailleurs, mais c'est tout, parce qu'on là, on parle de ses fesses.
Ouais.
Mais d'une beauté telle qu'elle est...
Objectif,
qu'elle est presque objective, voilà, c'est qu'on est presque dans l'objectivité. Je dirais pas ça, mais en tout cas, c'est une évidence sans vérité. C'est une évidence universelle, quelles que soient nos dilections sexuelles, devant les fesses de Brigitte Bardot.
Tout le monde est d'accord.
Voilà. Mais c'est une évidence qui ne fait pas l'économie du désir. C'est pas parce qu'on trouve ça sublime qu'on n'a pas envie de poser ses mains dessus.
Oui, c'est ça la différence à ce moment-là entre le bonheur d'un coucher de soleil ou de la nature magnifique comme une grande baleine et des fesses belles, mais oui, c'est pas des...
La grande bifurcation autour de la question de la beauté, c'est de savoir si la beauté doit nous écraser, en somme, nous humilier presque, nous rendre humbles devant elle, ou si elle est de nature à... Et comme dit Schopenhauer d'ailleurs, si elle doit à cet égard d'ailleurs apaiser notre inquiétude, ou si elle est au contraire de nature à susciter du désir malgré la beauté. C'est tout le paradoxe. C'est pas la beauté qui suscite le désir, l'expression du désir se fait malgré tout, malgré la beauté. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une transgression. Quand on regarde les fesses de Brigitte Bardot et qu'on imagine...
Les toucher.
Les toucher, ouais. Les écarter, tout faire. Qu'on imagine tout ça, on sort à ce moment-là, je crois, du régime de la pure contemplation. Mais on n'en sort pas complètement. Non plus. Toute la question est de savoir si l'évidence de la beauté s'accommode de la présence du désir ou si le désir vient polluer le sentiment du beau.
Oui, et de savoir si l'amour et le sexe, il y a vraiment une différence. Parce que bon, faire l'amour, c'est peut-être ça l'amour aussi. C'est peut-être, et le reste, c'est de l'amitié.
Oui, c'est vrai. Enfin, j'ai presque envie, pardonnez-moi cette banalité, de vous dire que ça dépend un peu quand même de la personne avec qui on le fait.
Bah oui, mais est-ce qu'on aime quelqu'un avec qui on ne fait plus l'amour ?
Alors ça, c'est encore une autre question. C'est encore une autre question, parce que la première question qui est de savoir... d'abord, est-ce que faire l'amour est une chose anodine ?
Non.
On peut considérer que oui, dans la mesure où on a tous les organes adéquats et que, d'une certaine manière, chacun s'emboîte. On peut considérer que ce qui permet de le faire, en tout cas, la géométrie des corps humains, fait que oui, c'est anodin. Non, ça ne l'est pas, parce que la somme d'intimité ou de confiance, peut-être qu'il faut avoir envers quelqu'un pour lui montrer ça. Pour dire ça de soi. Fait d'un tel geste quelque chose, qu'on le veuille ou non, d'un peu exceptionnel, même si on peut le multiplier à l'infini, ça n'est jamais tout à fait normal.
Non, bien sûr.
Ça n'est jamais tout à fait normal. Ça peut être banal, ça peut être quotidien, ça peut être multi-quotidien si on veut, c'est pas la question, ça n'est pas normal.
Oui, bien sûr.
Il y a quelque chose là d'exceptionnel.
Bien sûr.
Dans la confiance qu'on peut faire à quelqu'un, peut-être.
Et c'est ce qui fait.
Est-ce qu'en ce sens, il y a toujours de l'amour quand on fait l'amour avec quelqu'un, peut-être. Peut-être, c'est possible. Peut-être, en un sens. Est-ce que je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pendant très longtemps, je crois que c'est une phrase de la Bruyère. J'ai cru que. Vouloir ne plus aimer, c'était encore de l'amour. Que vouloir aimer encore, ça l'était déjà plus.
C'est bien ça.
Et oui, ce qui est assez facile de penser. En gros, je ne veux plus t'aimer, salope, je te déteste, connasse, etc. Ça veut dire, je t'ai dans la peau, je ne peux pas vivre sans toi et tu m'as fait chier. Voilà. Ou bien, essayons de partir ensemble. Et si on faisait venir un troisième larron, si on inventait des choses, et si, on peut considérer que les gens qui se proposent, même librement d'ailleurs, de recourir à ce genre d'artifice, sont des gens dont le désir a besoin de béquilles et qui, pour cette raison, s'aiment un peu moins. Mais on peut aussi dire, à l'inverse, que quand on déteste quelqu'un et qu'on ne veut plus l'aimer, c'est qu'on le déteste vraiment, et que par ailleurs, quand on veut faire l'effort d'être, d'injecter un peu... d'inédit dans sa monotone vie sexuelle, peut-être le désir de le faire avec quelqu'un témoigne-t-il de l'amour qu'on lui porte encore.
Ou alors ça dépend si on a besoin d'être amoureux de son meilleur ami, et à ce moment-là on inclut énormément de gentillesse dans la relation et des troisièmes larrons, ou alors on privilégie la passion et à ce moment-là on souffre un peu, mais la passion est si forte qu'elle exclut l'importance d'un troisième larron.
Oui, il y a aussi l'effet d'hypnose de la passion qui fait que quand on l'éprouve, on peut avoir le sentiment qu'elle se suffit à elle-même et qui nous laisse bien démunis le jour où on sent bien qu'elle est déjà un peu estompée. Comme le bonheur, si vous voulez. C'est difficile d'être heureux sans se demander combien de temps ça va durer. Donc c'est assez rare d'être pleinement heureux ou d'être pleinement dans la passion. De désirer totalement quelqu'un sans devancer le moment où on le désirera moins, c'est une difficulté. En fait, c'est comme si l'amour, comme le bonheur d'ailleurs, demandait de notre part une certaine forme d'ignorance.
Ouais, et c'est ce qui est douloureux, je trouve, dans la passion, c'est la voir après avec le temps. Moi, ça m'est arrivé récemment de dîner avec un homme avec qui j'avais eu une histoire passionnelle, mais il y a 4 ans. Et en redînant avec lui, je me suis rendu compte que je le trouvais
assez... Vous l'avez décristallisé.
Oh, totalement. Et en fait, ça m'a fait de la peine.
Ça vous a fait de la peine?
Oui.
Pourquoi?
Bah, parce que je me suis dit, mais c'est fou quand même d'être... Moi, je m'en suis voulu d'avoir pu aimer autant quelqu'un d'aussi orgueilleux, d'aussi vain, d'aussi prétentieux, de pas si intelligent que ça, de...
Mais c'est parce que, peut-être, est-ce que l'erreur n'était pas de considérer que les sentiments que vous aviez pour cette personne venaient de qualités objectives? On peut aimer un connard. Hein.
Ouais, voilà.
Enfin, je veux dire, on peut aimer un connard comme on peut aimer quelqu'un de bien. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le fait de sa connardise ou bien le fait que ce soit quelqu'un de bien qui le rend véritablement aimable. Est-ce qu'on aime pour... Si la personne que vous aimez vous demande imprudemment pour quelle raison vous l'aimez,
oui.
Vous répondez.
Pour quelle raison, oui.
Bah, si vous donnez des raisons aux sentiments que vous éprouvez, vous exposez votre sentiment à disparaître dans les raisons que vous lui donnez, avec les raisons que vous lui donnez. Donc, est-ce que le constat de la médiocrité de celui que vous regardez avec des yeux dessillés est-il un jugement sur la personne? Est-il un jugement sur vous? Ou est-il la preuve rétroactive du fait que non seulement l'amour aveugle, mais qu'il est si puissant parfois qu'il arrive à habiller des mendiants?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais. Et que la vision ensuite déshabillée de l'amour est assez...
C'est tout le paradoxe d'ailleurs, les gens avec qui on a envie de faire l'amour sont des gens qu'on a mille fois habillés. Mille fois revêtus de toutes les tenues les plus flatteuses. Quand je parle des tenues, je parle des tenues mentales. Ce sont les gens qu'on a ornés de toutes les qualités qui ne sont pas les leurs. Et c'est quand même étrange de penser que plus quelqu'un inspire du désir, plus on a envie de le ou de l'avoir toute nue, de tout savoir, de fouiller, d'être là. Plus, quand un tel désir s'accompagne de sentiments, ce qui est souvent le cas, on a préalablement revêtu la personne de toutes les qualités qu'elle n'avait pas. C'est fou comme on habille les gens qu'on veut déshabiller.
C'est beau. Et alors, je sais pas, ma mère m'a dit que ça vous ferait rire que je vous lise un petit texte que j'avais écrit sur Piotr Pavlensky, mais je sais pas, alors vous avez parlé de Pavlensky avec elle.
On était en pleine ambiance Pavlensky le jour où on
Oui, c'est
croisé,
ça. Bah oui, puisque c'était là des griveaux tombés, c'est ça.
Buzyn venait d'arriver. Pavlensky, une espèce de diable russe.
Comme
ça. Je sais plus ce qu'elle m'a dit à ce moment-là ni ce que j'ai répondu, mais
mais oui, non, ce qui est dommage pour les humoristes, c'est que c'était un vrai cadeau, l'affaire Pavlensky, dont on aurait pu se réjouir plusieurs mois, un peu comme quand il y avait eu des sagas de type Benalla, sauf que le coronavirus l'a détruit toute autre forme d'intérêt pour quoi que
c'est
ce soit
vrai,
dans l'actualité.
Pourtant, la chose était bien croustillante.
Ah ouais, bien croustillante.
Elle était bien croustillante, mais quand on pense à ce que le coronavirus a fait du procès Fillon...
Ah oui, oui, c'est fou ça. Donc,
mais c'est extraordinaire, les vraies victimes du coronavirus, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, mais c'est quand même extraordinaire de penser que d'autres choses se passe en
ce c'est fou.
C'est une mesure de notre cécité ou de notre myopie, c'est-à-dire que nous ne voyons que ça. Nous ne voyons que ça, alors qu'il y a eu des choses extraordinaires.
Extraordinaire, donc il va faire 2 ans de prison.
Oui, alors.
C'est génial.
Voilà, oui, bah, pourquoi pas, oui.
Bah, ça, c'est bien la preuve à tous ceux qui disent que la France n'est pas une démocratie de leur envoyer ça dans le nez, quand même.
Ça, c'est sûr. Ouais. Mais le vrai personnage de l'affaire, c'est plutôt Branco, moi, qui me fascine.
Ah oui, bien sûr. Fascinant.
Mais il est fascinant parce que c'est la confrontation, si vous voulez. Quand on a 6 ou 7 ans, on se prend, et qu'on se couche, par exemple, qu'on a un lit avec une couette, on se prend aisément pour Actarus dans son Goldorak. Ou pour Superman. Je veux dire, quand on ferme les yeux, le régime de l'imaginaire qui s'empare de soi, de l'imaginaire licite, de tout ce qu'on est en, en mesure d'imaginer, de tous les récits dont on réussit à orner son enfance, etc. Tout cela s'épanouit. Reste qu'avec l'âge, c'est une tendance qui s'estompe. Si vous voulez, mon grand cause, c'est la rencontre d'un enfant de 5 ans avec la réalité du monde.
Vous voulez dire Juan Branco, l'avocat,
on est en présence, je crois, d'un enfant de 5 ans qui a un pistolet à eau et qui voudrait menacer les adultes avec son pistolet à eau.
C'est fascinant, c'est un film en fait.
C'est le Ed Wood du droit.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est le sentiment solitaire qu'il peut avoir d'être subversif.
Ah oui, ouais. Mais il veut tuer tout le monde. Et c'est une histoire de Saint-Germain-des-Prés en fait, Juan Branco, parce que ça se passe que dans des appartements entre la rue d'Assas, l'avenue du Maine, avec des gens qui étaient à l'Alsacienne et à Montaigne.
Absolument. Et absolument. Ouais. C'est une affaire totalement germanopratique, sans intérêt.
Bien sûr.
Sans intérêt, mais qui a de l'intérêt par l'intérêt qu'on lui a accordé et par l'audience invraisemblable que reçoit ce fou. Qui devrait rester inoffensif et mythomane dans son coin et gêner personne, mais non.
Les personnages sont hauts en couleur. Juan Branco, c'est le fils de Paolo Branco. Et Paolo Branco, c'est le producteur qui l'un des plus fous de sa génération. Donc, et qui a fait les films que personne ne voulait faire. Et c'est une contradiction en lui-même, puisque c'était le producteur qui veut faire des films type sur la condition ouvrière, mais qui paye pas en les faisant. Et c'est après. Alors, est-ce que je vous lis mon petit texte ou pas ? Alors, je vous préviens, il est un petit peu. Il y a des blagues qui sont un petit peu trash à un moment. J'espère que ça va pas vous choquer. Je crois pas que ça risque.
Allez-y.
Alors.
J'aimerais bien que ça me choque.
Ah ouais ? Ah bon, peut-être alors. Donc c'est un petit texte que j'avais fait en plateau. Bonsoir. Alors, vous avez vu l'artiste qui a fait tomber Griveaux, c'est Piotr Pawlenski. Et moi, il m'a pas trop réconcilié avec l'art contemporain. Donc, vous savez, il fait des œuvres d'automutilation, il s'est cousu la bouche, il s'est cloué le scrotum, il s'est enroulé tout nu dans des barbelés, il s'est coupé le lobe de l'oreille droite. Donc, bon, il est un peu maso, quoi. On peut dire ça comme ça. Un peu comme moi. Voilà. Moi aussi, à ce moment-là, en fait. Ma vie sentimentale est une fucking œuvre d'art. Ma life est une performance. Mon rapport aux hommes, je peux en faire une expo. Pour la Saint-Valentin, un mec m'a planté, chef-d'œuvre. Bon, je vous raconte ça quand même. Le gars, en l'occurrence, c'était rien de sérieux, un début de plan cul, on s'était juste vu deux fois, et mec très beau, très jeune, 23 ans, moi j'en ai 30. Et donc, la veille du 14 février, en fait, la date est un hasard, ou tombe mal, on s'était un peu sextoté par DM sur Insta. Et le gars me fait « Hey, demain, tu veux pas qu'on teste des trucs ?» J'étais là « déjà, on pourrait tester un truc que t'as pas fait les deux fois où on s'est vu, c'est que tu me lèches la chatte, hein, si tu veux bien, avant de se lancer dans des trucs obscurs, à la Pawlenski, avec des clous, des vis, des épingles, des punaises et autres, on pourrait commencer par un truc très simple, un basique. Mais bon, je voulais pas faire ma relou, donc je lui réponds tester quoi ? Et là, il me fait, ça te dirait pas qu'on fasse un plan à trois avec une copine à toi ? Et non, ça me... Et je trouve ça relou, en fait, en 2020, de devoir tant se justifier de pas être bisexuel. Franchement, t'es tellement ringarde quand t'es hétéro. Et les mecs te croient pas, ils sont là, mais si, vas-y, avoue, avec ta copine Laura, tu veux trop la pécho. Et toi, t'es là, mais non, mais c'est ton fantasme à toi. Et moi, je te fais pas chier avec ton pote Mathieu. Je suis pas là, ton pote Mathieu, tu veux grave le sucer, hein, t'as envie qu'il t'encule, Mathieu, avoue. Non, voilà, non, vous fait pas ça, aux gars, franchement. Putain, je sais pas. Puis je sais pas pourquoi, en tant que féministe, je me sens doublement coupable. Je suis là, pardon, je veux pas lécher de chatte, mais girl power à mort. Et donc bon, hétéro-chiante, quoi, classique, mais je voulais pas lui déplaire. Donc je lui écris, si tu veux, on fait une sodo. Et bien sûr, il était très chaud, et résultat, j'ai passé la journée du vendredi 14 février sur Google, en mode lavement, comment ça s'organise, c'est quoi cette histoire, tuto, YouTube, putain, la pharmacienne, faudra demander à la pharmacienne. Bon, et heureusement, finalement, je me suis pas motivée. Je me suis dit, franchement, la flemme, au pire, il y aura du caca, et puis merde, c'est le cas de le dire. Et heureusement, parce que le gars m'a planté. Parce que sinon, imaginez si je m'étais motivée. Là, la poire aurait été une œuvre d'art, selon Pawlenski, un chef-d'œuvre. Elle aurait été vendue très très cher aux enchères, à Miami, comme la banane de Catalane, mais là, c'est la poire de Rosa. 120 000 dollars, titre de l'œuvre, poire inutile, sous-titre, cul lavé pour rien, métaphore de la vacuité de nos existences.
Je me suis toujours demandé comment on pouvait clouer son sac. J'essaie d'imaginer de la chose et peut-être que je ne sais pas ce que c'est que le scrotum, en fait.
C'est la peau qui recouvre les testicules.
Oui, c'est ça. Oui.
Bah, pour se la clouer, c'est surtout, à la limite, moi, je vois comment on peut se la clouer. Mais retirer le clou, ça doit être le moment le plus pénible. Enfoncer le clou doit pas être spécialement agréable déjà.
Mais quasiment on enfonce le clou dans la place rouge. Je comprends rien à tout ça. J'ai du mal à suivre les affaires de Pavlensky. Je trouve qu'on fait grand cas de son cloutage de scrotum. de façon générale, de tout ce qu'il fait. Là, vous avez raison dans ce que vous racontez. À mon avis, hein, c'est l'implicite culpabilisation, c'est-à-dire que, en fait, on prend une liberté pour une norme. Nous vivons, béni soit l'époque, une époque où c'est pas grave quand on est une fille de coucher avec une fille, quand on est un mec de coucher avec un mec, voire de coucher avec les deux en même temps, etc., etc. La loi ne vient pas vous émasculer quand vous faites une chose pareille, ou bien vous mettre en prison. Donc ça, c'est formidable, c'est merveilleux, etc. Le problème, c'est que cette liberté donnée cesse d'être une liberté à la seconde où elle devient normative, c'est-à-dire où, considérant que désormais on peut le faire, quiconque s'en prive est incarcéré. C'est là que on passe du régime d'un régime libératoire à un régime paradoxalement contraignant. Et en cela, il n'y a pas moins de contraintes dans la libération sexuelle qu'à une époque où la libération sexuelle n'étant pas actée, les obstacles dont il fallait triompher pour arriver soit dans la chambre de son amant, soit faire une sodo, comme vous dites, ou des choses comme ça, les obstacles à vaincre étaient quasiment légaux. Alors que là, l'obstacle à vaincre, c'est plutôt l'obstacle de l'opinion publique qui vous trouve un peu coincé si vous-même ne profitez pas pleinement de l'ensemble des libertés dont on dispose. Bon, c'est pas parce qu'on a la liberté de se faire fouetter si on veut qu'on est obligé de le faire, si vous voulez, ou qu'on est rétrograde quand on n'aime pas ça. Et c'est ce basculement, si vous voulez, d'une liberté nouvelle en norme nouvelle, qui est en lui-même paradoxalement liberticide. Que le mec vous dise que t'es coincé, pourquoi tu fais ça, ou qu'il se sente le droit de le dire et qu'il confonde le droit que vous avez de coucher avec qui vous voulez et l'envie que vous pouvez avoir de peut-être pas coucher avec des gens du même sexe, par exemple, ce qui arrive, cette confusion-là est une confusion qui en dit long sur... Et en fait, c'est l'inverse de la confusion dont on parlait tout à l'heure, qui vous fait un procès d'intention à la seconde où vous faites un constat. Bah, là, vous dites, oui, effectivement, j'ai le droit de faire ça, mais j'en ai pas envie. Et du coup, on considère que vous faites un mauvais usage de la liberté dont vous disposez.
Bah oui, c'est pour ça. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être sincère et sincère avec ses désirs. Mais c'est, voilà, si on n'a pas envie... Mais c'est vrai que par effet de mode... Et notamment en ce moment dans le milieu de l'humour, toutes les meufs sont un peu billes. Et en fait, je me demande dans quelle mesure certaines se forcent à l'être, en fait, pour
coïncider avec une norme nouvelle.
Ouais, c'est ça. Mais après, bon, tant mieux s'il y en a qui peuvent le dire et qui avaient honte de le dire et que si ça devient cool, bien sûr. Mais c'est vrai que...
Ce qui est compliqué, c'est de retrouver l'évidence d'un désir. Je me souviens d'un film, j'oublie le titre d'ailleurs, mais c'est un film très drôle, je crois que c'est un film argentin. Ou un type homo, une trentaine d'années, un jour s'aperçoit qu'il a une érection en pensant à une fille. Ça l'inquiète beaucoup, il en parle à son mec, ils en discutent ensemble, etc. Il en parle à sa mère, qui est furax, qui dit « mais moi je suis très fier d'avoir un enfant homosexuel, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et au bout d'un moment, donc, le type est pris dans ces incertitudes-là, il se découvre du désir pour les femmes qu'il n'avait jamais regardées. Bon. Et son mec lui fait un test. Écoute, on va faire un test. Et il le met à genoux dans un aéroport, un lieu de passage, hors coronavirus, il y a du monde, comme dans un quai de gare, si vous voulez, et il est là, et il le met à genoux, il lui cache les yeux, et puis il enlève ses mains, et il dit maintenant tu vas me dire ce que tu vois. Et là, sur la 9e symphonie de Beethoven, on ne voit que des culs de filles.
Ouf!
Donc là, évidemment, c'est très clair. Mais ce qui est merveilleux dans cette scène, indépendamment du fait que c'est très drôle, et que le mec se rend à l'évidence, il est hétéro, et il va falloir s'organiser, parce que voilà. Indépendamment de ça, ce qui est vraiment merveilleux dans cette histoire, c'est l'optimisme qui voudrait qu'en somme un individu soit capable de retrouver son véritable désir par-delà toutes les altérations pelliculaires de la mode, de la société, du droit qu'il a, de sa mère qui lui dit qu'elle est très fière d'avoir un enfant homosexuel et qui voit là-dedans une crise oedipienne, etc., etc. L'authenticité d'un désir véritable peine à se faire jour au milieu de tous ces artifices qui se prennent pour autant de vérité. Et l'idée qu'un homme puisse, tout simplement, en ouvrant les yeux, savoir si c'est un cul d'homme ou un cul de femme qu'il désire en premier, cette idée-là me semble d'un optimisme presque utopique, mais en elle-même, je la trouve intéressante et la série est magnifique.
C'est fascinant et ça me fait penser plein de choses très, très politiquement incorrectes, donc il faudra que je les formule en blague parce que sinon... on va m'accuser, moi, de misogynie. Mais parfois, je me demande dans quelle mesure la seule chose naturelle, c'est peut-être éventuellement, on va dire, l'attirance sexuelle des hommes pour les femmes. Et à quel point, en fait, finalement, l'attirance des femmes, c'est une décision et c'est pas si naturel que ça. Alors, mon Dieu, j'entends déjà les hurlements, mais je me demande... C'est Virginie Despentes, bon, alors elle a dit pas mal de conneries, mais elle dit des trucs, elle ose dire des trucs un peu fous parfois, et c'est quand même assez flamboyant. Mais elle a dit qu'elle avait, elle avait décidé d'être lesbienne, qu'elle a décidé de se libérer des hommes. Mais peut-être que à ce moment-là, moi, en étant attirée par des hommes, bah, je décide de rester esclave de mon désir pour les hommes.
Marivaux, un moment, est-ce que c'est dans la double inconstance? Un des personnages de Marivaux dit « Je vous aime, je le décide. » Comme si... Et en fait, quand elle dit ça, quand elle dit « Je vous aime, je le décide », elle laisse entendre « Je vous aime, j'y suis décidé. » J'y suis décidé, c'est-à-dire « Je le décide, c'est je ne fais que consentir à un sentiment devant lequel je n'ai pas le choix, face auquel je n'ai pas le choix que de me soumettre. J'y suis décidé. » Alors, je ne connais pas la démarche de dépense, je connais moins que vous, mais la décision politique, si elle est d'abord politique, de ne faire l'amour qu'avec des gens du même sexe, par exemple, pour se libérer d'une tutelle, me semble une double erreur. D'abord, parce qu'elle politise le désir au point de considérer que le désir pourrait lui-même se soumettre aux injonctions d'une vertu politique, ce qui me semble illusoire. Enfin, ça me semble que pour un individu, s'imposer ça est une chose extrêmement dangereuse et propice à bien du malheur. Il y a ça, il y a ce sentiment-là, et puis il y a au-delà de ça l'idée que mon propre désir puisse soit traversé de part en part par les enjeux de la société, me semble une idée extrêmement dangereuse en vérité. C'est pas parce que les usages millénaires de la société franchissent le seuil de la maison et que les individus reconduisent à l'intérieur ou dans l'alcôve des situations inégalitaires qu'il faut s'en prendre au désir lui-même,
ou à
la nature même du désir. On peut pas obliger les gens, dans l'espace absolument privé de leur existence, de ne pas se soumettre. C'est ça qui est difficile, en fait. C'est comme la consommation de tabac. Publiquement, fumer est une sorte de droit. Une démocratie est un régime où on a le droit de se nuire. Dans une certaine mesure. On coûte pas trop cher à la sécu, dans la mesure où on achète quelque chose qui est suffisamment taxé pour rembourser à l'avance, finalement, ce qu'on coûtera à la sécu. Bref. Une démocratie est un régime où l'on peut avoir le droit de se nuire, effectivement, le droit de boire, le droit de fumer, etc. Donc c'est en soi une liberté publique. Reste que être alcoolique ou être fumeur, c'est un esclavage intime. Mais c'est pas l'objet de la loi. La soumission du fumeur à son propre vice ne peut pas faire l'objet ou ne fait l'objet d'une législation que dans un régime liberticide. Et il en va de même pour le désir.
Oui, et dans le désir, il y a quand même pour moi aussi un petit peu de curiosité, mais comme ce truc très adolescent, c'est-à-dire que bon, moi je trouve ça pas très intéressant, moi ça m'attire pas trop ce que je connais, et je trouve qu'il y a quand même la conquête de l'autre dans sa différence, c'est quand même un peu plus excitant. C'est ce que vous disiez dans le fait que c'est pas banal. C'est pas banal parce que on vit pas avec ce sexe-là. Donc quand on est confronté au sexe qu'on connaît pas, bah ça en fait un événement peu banal.
Et puis il y a aussi le fait que chaque individu est différent. Mmh. On a tous les mêmes corps, on a tous les mêmes organes, et mettons qu'on fasse l'amour de la même façon.
Plus ou moins.
Plus ou moins. Ou qu'on y croise en tout cas des étapes à peu près familières, etc. Mmh. etc. Je ne parle pas du goujat dont c'est une autre histoire. Mettons qu'on soit, si vous voulez, soumis à ça. C'est dans l'insoutenable légèreté de l'être, Damas qui couche avec tout ce qui bouge. Et Kundera raconte que, en fait, il c'est un vrai libertin, c'est-à-dire qu'il cherche en permanence le millionième de dissemblable. Ce qui l'excite, c'est que personne n'est exactement identique. Et que, en somme, on a toujours un peu de curiosité du côté du derrière. Parce que c'est jamais tout à fait le même. Et en somme, être capable de faire saillir la nouveauté à l'intérieur d'un geste répétitif ou de trouver dans l'écrin de la banalité les linéaments de quelque chose d'absolument unique, d'absolument singulier, d'absolument bizarre, me semble une des vertus du libertinage. C'est-à-dire du libertinage qui n'est pas simplement l'addition donjuanesque des victimes, mais qui serait plutôt la célébration de chacune d'elles, qui ferait valoir que... quand on a 1003 conquêtes, c'est qu'on a véritablement aimé 1003 personnes.
Ah oui, pour moi, le piment, c'est les sentiments. C'est pas les sextoys et les nouveaux accessoires. C'est ça qui va faire que l'exercice sportif sera un tout petit peu plus différent. C'est les sentiments. J'ai l'impression que c'est ça qui fait que à chaque fois c'est différent.
J'ai un copain qui m'expliquait un jour que la différence entre faire l'amour avec quelqu'un qu'on n'aime pas et faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, c'est toute la différence qu'il y a entre un prêt et un abandon. Et je suis assez convaincu.
On investit.
Un prêt dans un cas, un prêt, c'est-à-dire que voilà, un prêt d'ailleurs symbolisé en général par la présence non pas d'artifice mais d'outils de protection. Qui fait qu'on se donne sans se donner complètement, des capotes. Alors qu'il y a dans le régime du sentiment quelque chose qui est de l'ordre d'un abandon absolu, d'un désir d'abandon absolu qui culmine dans le sentiment d'une séparation totale, parce qu'on a beau s'accoupler, on finit quand même
par être seul.
Oui, c'est ça, voilà. Par retrouver une solitude qu'on a voulu suspendre. Reste que comment vous dire ça ? Je ne suis pas certain que le désir lui-même ne soit pas une forme de sentiment. Est-ce que, vous savez, quand on dit... de quelqu'un qu'on peut avoir du désir pour lui, mais que bon, n'est pas amoureux, etc. Je trouve qu'on compartimente aisément et commodément et opportunément les registres, alors qu'à mon sens, les choses sont plus mêlées qu'on pense.
Après, je vais bientôt finir par vous laisser, mais vous, Raphaël, vous êtes plutôt un romantique idéaliste absolu ou plutôt quelqu'un de pragmatique ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, est-ce que...
En quoi c'est contradictoire ?
Si
vous êtes romantique, si vous êtes un idéaliste, si vous voulez fabriquer des moments parfaits, je ne dis pas que c'est moi, mais si vous êtes romantique, idéaliste, que vous avez le goût du moment parfait, ou que vous voulez offrir la bague au bon moment, vous attendez que la lumière soit bonne pour donner le baiser, bref, si vous êtes le metteur en scène de vos propres de vos propres sentiments, vous êtes nanti d'un pragmatisme à tout égard.
Il faut être ultra pragmatique.
Bah oui, c'est que pour être un bon romantique, il faut vraiment avoir les pieds sur terre. Il faut pas déconner. Il faut avoir un sens du timing redoutable, etc., 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 etc. Les vrais romantiques, les purs romantiques, sont des grands maladroits qui finissent en général le nez dans le truc. Non, je vois assez peu d'opposition sous les jeux. Tendance à penser que le pragmatisme est le meilleur allié du romantisme, et qu'il ne le contrarie pas d'ailleurs, qu'il ne le contredit pas. C'est pas parce qu'on travaille à la fabrication des circonstances qui produisent l'instant de grâce que il y a pas d'amour dans l'effort qu'on fait, ni d'émerveillement dans l'instant lui-même. Donc j'ai du mal à opposer les deux.
Et est-ce que vous avez de la patience pour les gens que vous trouvez un peu bébêtes?
Ah, je serais pas prof, sinon.
Ah oui.
Pour les profs, enfin, pour un prof de philo, il y a deux formes de bêtises. Vous avez la bêtise soluble dans un apprentissage. Vous avez la bêtise du type qui dit, c'est moi qui ai raison et je t'emmerde. Bêtise soluble dans l'apprentissage, dans la découverte que sous une conviction, il y a beaucoup d'ignorance, et que plus on est sûr de ce qu'on dit, moins on dit des choses sûres. Enfin bref, il y a cette première bêtise qui est la bêtise qu'on aime bien parce que c'est celle du type qui croit que la Terre est plate et à qui on apprend que c'est pas le cas quand il va à l'école. Mais il y a une bêtise plus redoutable, qui est la bêtise dont parle Montaigne, et puis Clément Rosset ensuite. Qui est la bêtise érudite, la bêtise intelligente, la bêtise du type qui est vraiment incurable parce qu'il croit qu'il a guéri. Le type qui considère, par exemple, qu'il lui suffit de savoir que la Terre est ronde pour savoir tout ce qu'il y a à savoir en matière de géologie, celui-là est incurablement bête, contrairement à celui qui pense que la Terre est plate et à qui il reste à apprendre que la Terre est ronde. Ce que je veux dire, c'est que les individus veulent bien être détrompés une fois, mais pas deux. Donc, on se sent aisément lucide quand on est revenu sur une illusion. Mais l'illusion est après de croire qu'on a aboli toutes les illusions en supprimant celle-là. C'est là, en fait, que commence la bêtise au carré, c'est-à-dire la bêtise de celui qui veut jamais être remis en cause ou qui a le sentiment que, comme il est cultivé, il n'a en lui ni ignorance ni mauvais sentiment. Cette bêtise-là, l'idée qu'en somme la bêtise pourrait disparaître avec la culture, ou avec l'intelligence, ou avec un apprentissage, cette bêtise-là est une bêtise au front de bœuf, incurable parce qu'elle ne se soupçonne pas elle-même.
C'est beau. Et alors, comme vous aimez Proust, juste pour tout finir, est-ce que je peux vous poser les petites questions rapides du questionnaire de Proust?
Ah, j'y avais pas pensé, d'accord, si vous voulez.
Je pensais que vous les connaissez par cœur, parce que...
Je les connais, je les connais.
Ça fait longtemps qu'on vous les a... Tant mieux. La qualité que vous préférez chez un homme?
Le courage.
La qualité que vous préférez chez une femme?
Le courage.
Le principal trait de votre caractère?
Le désir d'être courageux.
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis?
Leur esprit.
Votre principal défaut?
Principal. Principal, il y en a tellement. Oh, je ne sais pas, peut-être la vanité. Probablement. La vraie vanité, la vanité du type qui croit qu'il n'est pas pétri de vanité parce qu'il a sur le papier la recette de l'humilité. La vanité de celui qui croit qu'il n'est pas vain. On est tous un peu exposés à ça quand on a des connaissances, comme on dit.
Ah bah, ça me rassure, peut-être que ça veut dire que je ne suis pas vaniteuse, vu que je revendique tellement tout le temps d'être trop vaniteuse, peut-être que ça veut dire que je ne suis pas au fond.
Une vanité qui se moque d'elle-même, elle est déjà, déjà suffisamment malmenée pour être douteuse.
Votre occupation préférée?
Mon occupation préférée, travailler.
Votre idée du bonheur?
Travailler.
Quel serait votre plus grand malheur?
Perdre Louis.
Ne plus entendre.
Ne plus entendre.
J'ai entendu Louis, je pensais que c'était quelqu'un. Je pensais que c'était son fils.
Non.
Si vous n'étiez pas vous, qui voudriez-vous être?
Épicure.
Moby Dick.
Tranquillement, plutôt Épicure.
Où aimeriez-vous vivre?
Là où je me trouve.
Votre couleur préférée?
Le noir.
Votre fleur préférée?
Le coquelicot.
Vos auteurs préférés, poètes préférés?
Ah mon Dieu, il y en a trop. mes auteurs préférés, Clément Rosset, Camus, Montaigne, Proust, Baudelaire. Je n'ai rigoureusement aucune imagination. Armatova, peut-être.
Et je rajoute au questionnaire. Et film, comédie romantique, série?
Oui, mais enfin, c'est innombrable.
C'est innombrable. Il n'y en a pas un film particulièrement.
Si, plein. Citizen Kane, mais c'est d'une banalité. C'est d'une banalité. J'aime dans Citizen Kane le fait que, comme le dit l'un des personnages à la fin, no word can explain the life of a man.
Et qu'on
croit avoir dès le début le fin mot de cette existence, alors qu'en réalité, on ne fait que tourner autour. Et ce qu'on prend pour une piste n'est qu'une luge. Et j'adore ça.
Ouais, c'est beau. Des héros ou héroïnes de fiction préférées?
Ah, héroïnes de fiction préférées? Oh oui, je crois quand même Madame Bovary, malgré tout. À qui il faut quand même reconnaître une audace et une force, une capacité à désirer quand même. Disons, j'admire en Madame Bovary le fait qu'elle n'est pas tchékovienne, c'est-à-dire le fait qu'elle ne passe pas sa vie au seuil de sa porte, mais qu'elle y va. Elle couche avec Léon, elle couche avec Rodolphe. Elle y va, je suis admiratif de ça, et qu'elle le fasse au 19e siècle en plus. Je trouve ça malgré tout admirable, même si par bien des égards, elle est très antipathique, et dit, pense, fait des bêtises. Ça reste, de ce point de vue, je trouve que la victoire qu'elle remporte sur elle-même en acceptant de prendre un amant me semble une victoire exemplaire et une sorte de modèle.
Et un personnage de l'histoire que tu vous détestez le plus?
Un personnage de l'histoire que je déteste le plus?
Ah oui, un héros dans la un héros de la vraie vie que vous aimez et un héros de la vraie vie que vous détestez, un personnage ayant existé.
Je dirais Clément Rosset, qui combine les avantages d'être un immense philosophe et quelqu'un que j'ai connu.
Et un personnage de l'histoire que vous aimez pas trop?
Un personnage
Hitler,
de l'histoire,
j'imagine.
Oui, c'est banal, ça.
Ouais.
Non, un personnage de l'histoire que j'aime pas trop. Alors, il est à la lisière de l'histoire et de la fiction et il a fini par recouvrir l'actualité, c'est Koba. Koba, c'est d'abord le surnom de Staline quand il est un détrousseur de banque dans sa jeunesse. C'est un idéologue fou, très violent, brutal, une sorte d'assassin, jeune assassin, détrousseur de banque. On a mythifié ensuite le casque, le fameux casque que Staline avait fait. Et il se faisait appeler Koba à ce moment-là. Quand il a organisé les premières purges et que d'anciens officiers qui avaient combattu avec lui dans la Grande Guerre patriotique lui disent « Mais enfin, Koba, que fais-tu de la reconnaissance ?» Koba répondait « C'est un sentiment pour chien. » Koba, qui était donc le prénom de Staline, est ensuite devenu le nom d'un personnage de la planète des singes, l'ennemi de César. César est le roi juste, c'est le bon dirigeant, c'est celui qui veut faire la paix avec les hommes parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sustainability, qu'un projet d'existence n'est durable sans une bonne entente entre les singes et les hommes, et qui donc essaie de travailler à ça, et que Koba, évidemment, par patriotisme fou, par nationalisme signesque, donc Koba décrète que César est un traître, évidemment, à la cause des singes. Et donc Koba incarne la position, finalement, c'est un indigène chez les, chez les singes. C'est-à-dire, c'est celui qui... c'est le singe raciste. C'est le singe fasciste qui veut faire régner un régime où les singes sont au-dessus des autres, en fait, et qui célèbre comme tel pour qui le fait d'être un singe est en soi une valeur, et non pas simplement consécutivement aux tortures infligées par les hommes sur les singes. C'est celui qui a été le plus torturé par les hommes, évidemment, et dont les positions sont les plus extrêmes. Et Koba, ça a été ensuite le surnom que s'est donné le rappeur homophobe qui a déclaré que... il fallait tuer les homos, je ne sais plus comment il a dit ça, enfin, un truc comme ça. Je trouve que ce surnom, Koba, que ce soit celui de Staline, que ce soit celui du raciste dans la planète des singes, ou que ce soit celui du rappeur homophobe, Koba, historiquement, est le surnom du connard.
c'est clair.
Je suis assez... Donc s'il fallait nommer une connardise maximale, qu'elle soit à la fois réelle et mythique, ce serait celle-là, Koba. J'aime pas Koba.
Je suis comme vous. Et votre repas préféré?
Mon repas préféré? Le lait, le miel.
D'accord. Et très enfantin?
Non, c'est juif.
Oui, c'est avec une pomme.
Oui, c'est ça.
Votre boisson préférée?
Le vin.
Et votre prénom préféré?
Le mien.
Raphaël, c'est vrai que c'est très beau.
J'y suis pour rien, je ne l'ai pas choisi. Ouais.
Merci papa, merci maman.
Oui. Ça, je te le dis, vraiment.
Ça influe la vie, hein,
d'avoir... Mais le problème d'avoir un tel prénom, si vous voulez, c'est que c'est quand vous-même avez des enfants, vous êtes contraint d'en donner des prénoms qui sont moins beaux que le vôtre, c'est un problème, si vous voulez. J'ai pas choisi mon prénom, mais le jour où je me suis aperçu du prénom qu'on avait eu l'intelligence de me donner, j'avoue que j'étais reconnaissant. Je connais pas de plus beau prénom que celui-là, j'y peux rien.
C'est vrai que c'est beau.
Mais oui.
Vous auriez pu Raphaël 2, Raphaël 3 ou Raphaël Junior.
Oui, c'est ça, John Ross. Non, c'est pas le genre. Non, malheureusement, le mien.
Je suis bien d'accord. Moi, je trouve pas que Rosa soit mon prénom préféré, c'est Rebecca. C'est pas loin de Rosa, mais...
Oh, c'est pas mal. Rosa, c'est très bien. Rosa, c'est très bien. Vous êtes à la lisière de la fleur et de la déclinaison.
Ce que vous détestez par-dessus tout, je Koba.
Je déteste par-dessus... Non, la lâcheté. Plus que l'extrémisme. J'ai moins de mal avec l'extrémiste. Parce qu'il appartient plutôt au premier degré de la bêtise, en fait. Un vrai raciste. Type vraiment très, 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 très con. À moins d'être un singe. Normalement, on peut faire entrer un peu de bon sens. On peut faire entrer un peu de bon sens. Ne serait-ce que parce que les idées que lui-même défend sont des idées qui finiront par lui nuire. Et donc, il y a toujours une prise sur la grosse connerie. On a moins de prise sur la lâcheté raisonneuse du type qui du pondéré du Jean-Marc Ayrault qui dit la liberté de la presse est importante mais faut pas blesser les religions. Vous voyez ce que je veux dire? On a moins de prise sur le lâche qui vit sa lâcheté comme un exercice de pondération. Chirac à l'époque, Chirac était le paradigme de ça, où il disait mais la liberté de la presse, le respect, c'est important aussi. Voilà, on a moins de prix sur celui-là parce qu'il vit sa propre opinion comme une valeur ajoutée, comme un progrès. Alors que ça n'est que le nom donné à la décision d'être lâche et de tourner le dos au danger.
D'avoir peur et...
Ou d'avoir peur et de transformer sa peur en raison.
Comment aimeriez-vous mourir?
En plantant mes choux, comme dirait Montaigne. C'est-à-dire debout. Actif. Aaron est mort comme ça.
Ah oui?
Ouais, il sortait du palais de justice, il est allé défendre Bertrand de Jouvenel. Et il sort du palais de justice, les journalistes étaient là. Il a réglé sa montre sur l'horloge infaillible du palais de justice. Les journalistes lui posent des questions, je n'ai pas de déclaration à faire. Il me semble juste que je suis arrivé à dire l'essentiel. Et là-dessus, il est monté dans la voiture, il est mort.
Incroyable.
C'est la dernière phrase. Dernière phrase connue de Raymond Aron, c'est « Je crois que je suis arrivé à dire l'essentiel. »
Oh. Wow.
J'aimerais bien mourir comme ça.
Ah ouais.
Ou avec ce sentiment-là.
Ouais.
J'aimerais pas mourir en me disant que j'ai oublié un truc dans la machine. Ou dans le panier de linge, vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais pas mourir. J'aimerais pas que ma mort soit encombrée par un souci du quotidien, mais ça me semble utopique. Il me semble qu'on, logiquement, même 10 secondes avant de mourir, on doit encore avoir des emmerdes. J'en sais rien, on verra.
Merci beaucoup, Raphaël.
Merci, Rosa.
Bon, les copains, est-ce que ça vous a plu, cet épisode? Moi, j'ai envie de dire merci à Raphaël Antoven. Merci de m'avoir répondu, de m'avoir reçu et d'avoir parlé avec moi. Et même si je ne suis pas forcément d'accord avec... du fait de placer comme ça la présomption d'innocence en premier. Peut-être que moi, en ce moment, la présomption d'innocence, j'ai envie d'aller lui dire de se faire enculer, voilà. Mais c'est pas grave, en fait. Ce qui est fou, ce qui est beau, ce qui est incroyable, c'est le fait de même si on est un peu en désaccord, on a pu discuter, et en fait, il m'a reçu chez lui, il m'a regardé dans les yeux, et il m'a dit sa version, et en fait, moi, ce que je supporte pas, c'est l'hypocrisie, le paternalisme. Et on peut dire que Raphaël Antoven n'est pas là-dedans. C'est pas quelqu'un de faux, c'est quelqu'un qui dit sa vérité. C'est pas quelqu'un qui dit d'accord de loin, je suis d'accord avec toi, c'est pas quelqu'un de lâche. En fait, oui, c'est quelqu'un qui est la qualité qu'il aimerait avoir, c'est-à-dire le courage, voilà. Et c'est vrai qu'il y a plein de mecs qui se disent... féministe, qui en fait que je peux pas recevoir dans le podcast parce qu'au fond ils me méprisent et qu'ils prennent pas le temps de discuter avec moi. Et Raphaël Antoven, il m'a vu, j'ai pu lui lire mon texte sur Pavlovski, j'ai pu lui dire, j'ai pu lui parler de Machad, j'en sais rien, et je sais pas, la façon dont il le recevait, tout d'un coup j'avais l'impression qu'il entendait mon propos derrière les mots que je mettais. Et ça m'a fait très plaisir parce que récemment sur les plateaux, dès que je dis chatte, les gens n'entendent que chatte. Alors que bien sûr que je dis d'autres choses à travers chat, que je parle plein d'autres choses. Mais on est dans une période un peu à la censure. Et ça, c'est quelque chose auquel s'oppose Raphaël Antoven. Parce que c'est quelqu'un qui défend la liberté. Et voilà, c'est quelqu'un de rare, c'est quelqu'un de très agréable à écouter. Je lui suis infiniment reconnaissante de s'être confiée à moi, de m'avoir fait confiance avec ses mots, d'avoir eu aucune minauderie. Certains, après l'enregistrement, regrettent et sont là « Ah non, mais en fait, je veux pas le dire, ou je veux pas que ça sorte, ou en fait, tu me feras réécouter. » Bah non, là, Raphaël Antoven, il s'est donné, il s'est abandonné à la discussion. Il m'a pas dit après « Ah, et puis les fesses de Brigitte Bardot, en fait, j'aimerais que tu... » Non, voilà, il assume. Et ça, c'est très... C'est très viril et ça donne envie, en fait. Moi, ça me donne envie de parler avec des gens intelligents, pas forcément de faire l'amour. Enfin, si, au passage, ça serait quand même cool. Voilà, que vous dire d'autre ? Je vous embrasse. Lavez-vous les mains et bisous.
Les mecs que je veux ken.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast « @lesmecsquejeveuxken » sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.